France Inter. Le 7-9.
Et à 7h50, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est grand reporter et écrivaine.
Bonjour Niva.
Bonjour.
Vous avez vécu 10 ans en Russie, dans une autre vie, vous parlez très bien le russe et vous sortez cette semaine un livre et un documentaire sur France 5 qui porte le même titre, Un continent derrière Poutine. Pourquoi connaît-on si mal la Russie? Pourquoi sommes-nous si mauvais, si plein de préjugés, nous Français, face aux géants russes?
Il n'y a pas que nous Français, mais je crois qu'il est...
Nous Occidentaux.
Oui, nous Occidentaux, mais parce que la Russie fait peur, parce que la Russie, pendant plusieurs décennies, a été soviétique, et que tout ça a disparu d'une façon, avec beaucoup de souffrance pour les Russes, et que nous ne sommes pas vraiment rendus compte de ces souffrances, parce que nous n'avons pas souffert. Donc évidemment, la vision des Russes sur eux-mêmes, sur leur pays et sur leurs dirigeants, qui est le même depuis 18 ans, n'est pas la même que la nôtre.
Quels sont les pires préjugés que vous avez entendus sur la Russie et sur Poutine, ici en France ou en tout cas
On en entend tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire, d'abord, on n'entend parler que de Poutine. Et ça commence véritablement à m'agacer. Donc, c'est intéressant d'essayer de savoir.
Il est quand même omniprésent.
Oui, il est omniprésent, mais il n'y a pas que Poutine. Et s'il est omniprésent, c'est parce qu'il a été élu et réélu et qu'il va l'être encore ce dimanche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi les Russes vont le réélire. Ils n'ont pas un couteau sous la gorge. On ne les oblige pas, manu militari, à voter pour Poutine, même si, évidemment, les élections ne se déroulent pas de la même façon que chez nous, etc. Donc ce qui est intéressant pour moi, plus que dans la tête de Poutine, c'est aussi ce qu'il y a dans la tête
des
Russes.
Justement, pendant 4 mois, vous avez traversé le pays d'est en ouest, vous avez commencé par l'est, en vous arrêtant dans les villes, dans les villages, en terminant à Saint-Pétersbourg et en évitant Moscou. Pourquoi vous avez évité Moscou?
Alors d'abord, pourquoi j'ai commencé par l'est? C'est parce que, d'abord j'aime bien faire les choses à l'envers, et puis c'était pour montrer véritablement l'aspect continental de ce pays. Parce que ça joue aussi sur le fait que nous, Français, nous avons du mal à le comprendre. Nous sommes un confetti par rapport à la Russie. La Russie est gigantesque et ça joue dans la mentalité des gens. Donc, Solzhenitsyn, quand il est revenu de son exil aux États-Unis, est arrivé symboliquement par l'est. J'ai voulu marcher dans ses pas et remonter symboliquement jusqu'à la ville de Poutine, Saint-Pétersbourg. Pourquoi pas Moscou?
Pourquoi pas Moscou?
Mais parce que Moscou est vu et revu, fait et refait, parce que Moscou est une île, parce que Moscou n'est pas du tout la Russie. Donc, je voulais montrer autre chose. Il y a d'autres villes intéressantes, moyennes, petites, des villages en Russie.
Alors, vous avez rencontré des businessmen, des prêtres, des artistes, des homosexuels. Pour comprendre leur relation à Poutine, pourquoi sont-ils séduits par Poutine?
Alors, ils ne sont pas tous séduits. Hein. Et je dirais que même les plus pro-Poutine ont des critiques à faire à propos de Poutine. Les anti-Poutine ont également un petit peu de... Parfois disent, mais on a que Poutine. Donc, il y a
des
nuances.
C'est ce que vous montrez dans le livre et dans le documentaire. Ce que vous montrez, c'est que ce n'est pas monolithique. Ce n'est pas la grande majorité qui est pro-Poutine de manière absolue.
Et il y a des nuances. Il y a des nuances.
C'est gris.
Mais en général, tout ce qui est commun à tous ces Russes, c'est qu'ils sont anxieux. Ils ont peur. Ils ont peur de l'après-Poutine. Ils ont peur de se retrouver dans les immenses souffrances qui ont été celles de ces décennies de la fin de l'URSS sous Gorbatchev et puis ensuite Yeltsin et de ces débuts justement balbutiants du post-soviétisme. Mais on se rend pas compte à quel point ça leur a fait du mal, cette chute de l'économie, le fait que l'URSS n'existe plus. Donc,
Quand on dit qu'il y a une nostalgie de l'Union soviétique, qu'il y a même un culte renaissant de Staline, c'est vrai, vous l'avez constaté?
Alors, il y a une nostalgie de l'URSS, bien sûr, mais ça dépend quel âge on a. Évidemment, plus on avance en âge, plus on en a. Et il y a, pour les plus jeunes, un poids du soviétisme. Et pour les vraiment plus jeunes, ça c'est très intéressant, et c'est en cela que je vois un espoir, que je vois que la société russe est moins immobile qu'il n'y paraît. Ceux qui ont 17-18 ans aujourd'hui, qui ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, eh bien ceux-là, ils ne s'embarrassent pas de ce poids soviétique. Et ceux-là, ils ont un discours complètement différent. Ils descendent dans la rue, Léa, à l'appel de l'opposant principal qui n'a pas été autorisé à se préparer pour les élections,
Navalny.
À être candidat, Alexei Navalny, et eux, ils disent, on est anti-Poutine, on veut du changement. Mais tous ceux qui ont même 25 ans, 30, 35, 40 ans, ils sont plus nuancés. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent, on ne veut pas retourner dans ces années de la fin 90, début 2000, où on avait tous du mal. On aime cette stabilité. Parce que si on n'a pas Poutine, on ne sait pas qui on aura. On ne sait pas qui nous gouvernera et on a peur. Alors, ils ont peur de tas de choses. J'ai un oligarque à Irkoutsk qui a peur, il le dit vraiment, des Chinois. Il a peur des Chinois, mais il n'est pas le seul. Mmh. Et ça aussi, je voulais le montrer pour le public français. Le fait que cette Russie soit ce continent qui a plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec la Chine a des conséquences. Et les Chinois, évidemment, lorgnent sur ces territoires qui sont très peu peuplés. Et ça, on s'en rend pas compte ici.
Vous avez rencontré la femme qui monte, Xenia Sobchak, oui. La fille du maire de Saint-Pétersbourg, symbole de la jeunesse dorée. Elle est quoi, Xenia Sobchak?
Elle est très intéressante.
Elle pèse quoi? C'est une véritable opposante à Poutine ou c'est, si vous me permettez l'expression, l'idiote utile du système Poutine?
Non, ça n'est sûrement pas l'idiote utile parce qu'elle est très intelligente. Mais elle a, en même temps, elle a des atouts et elle a l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est fille d'eux. Elle est fille d'un homme qui est mort, d'ailleurs dans des circonstances assez troubles, mais qui était le mentor de Vladimir Poutine. Alors que Vladimir Poutine n'était rien, le père de Xenia Sobchak, Anatoly Sobchak, était maire libéral-démocrate de Saint-Pétersbourg. Bon, c'était il y a longtemps. Il est mort quand elle avait 18 ans. Aujourd'hui, elle a 35 ans à peine. Alors, elle a d'abord été une femme de télévision. Elle a été présente dans l'équivalent de notre émission de télé-réalité Loft, qui s'appelle Dom, en russe. Dom, ça veut dire maison. Dom 1, 2, 3, 4, 5. Elle a fait plusieurs saisons. Donc, elle était tout le temps à la télévision. Ensuite, elle s'est piquée de politique, c'est-à-dire qu'elle est descendue dans la rue, aux côtés des manifestants.
Mais sur le fond, elle
défend. Et maintenant, alors, sur le fond, tout le monde disait, elle ne sera pas capable de faire campagne, elle est capable de faire campagne. C'est-à-dire que, quand on va dans ses meetings, qu'on l'écoute, elle dit des choses qui sont sensées, qui sont intéressantes, et elle est la seule à le dire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elle va aujourd'hui tout bousculer. Elle va faire à peine 1%. En revanche, il est fort possible qu'elle se prépare pour 2024.
Et alors 2024, finalement plus intéressant et plus menaçant peut-être pour Poutine, est-ce que c'est pas Alexei Navalny, qui est très populaire dans sa lutte contre la corruption? Et lui, il est interdit.
Mais 2024, c'est loin. Alors d'abord, on se demande d'abord si Poutine, qui sera réélu ce dimanche au premier tour, bien sûr, va faire son mandat jusqu'à la fin. Ça, c'est déjà pas sûr.
Il va peut-être. Comment vous pouvez en douter, sérieusement, là?
Mais parce que d'abord,
il fait 18 ans qu'il est au pouvoir.
Mais il est possible que lui-même n'ait pas envie de le faire jusqu'à la fin.
Vous êtes sérieuse?
Oui, je ne suis pas la seule à le dire. Beaucoup d'observateurs de la Russie le disent. Parce que il va se rendre compte qu'il sera peut-être plus confortable pour lui de se trouver un successeur en étant au sommet plutôt qu'en arrivant normalement à la fin de son mandat. Il me semble un peu lassé, Vladimir Poutine, même s'il est très content de se présenter, de savoir qu'il va être élu. Donc, et puis il sera peut-être bousculé aussi, on ne sait pas.
On verra.
En tout cas, concurrence entre Xenia Sobchak et Alexei Navalny
pour
2024.
Vous dites, j'en ai marre d'entendre en France que Poutine est un dictateur. Anniva, est-ce que vous reconnaissez que c'est un autocrate?
Non mais bien sûr que je reconnais que Vladimir Poutine n'est absolument pas un chef d'État démocratique au sens où on l'entend, nous ici en France. Mais en même temps...
Les opposants politiques en prison quand ils ne sont pas empoisonnés comme
bien
cet
sûr,
agent russe.
Bien sûr.
Les médias muselés, c'est quand même...
Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle les Russes votent pour lui, Léa. C'est parce qu'il a redonné force et fierté et puissance à la Russie. Et ça, qu'on le veuille ou non, nous, Occidentaux, c'est ce que
ils
les Russes souhaitent.
Fort.
En majorité, oui.
Anniva, Un continent derrière Poutine, c'est un livre qui sort au Seuil cette semaine et c'est un documentaire diffusé à 17h sur France 5.
Oui, c'est un film, parce que je voulais qu'on les voit, ces Russes qui vont revoter
Poutine.
Et on
les voit, vous les avez rencontrés d'Est en Ouest, donc merci et belle journée.
Merci.
Merci Léa.